Chapitre 2. Le lendemain après-midi, les Cassagnoles s'en allaient au jardin de Papette Rességuier, à l'extrémité du faubourg de la gare. C'était un type, Papette Rességuier. Petit, aussi noireau qu'un serment d'automne, il vivait seul, bien portant et gai, au milieu de son domaine. Il semblait perdu dans cette antique maison de jardinier où il était né et dont il nettoyait constamment les pièces bizarres, encombrées de meubles et de tonneaux. Ses parents y étaient morts, ainsi que trop de créatures qu'il avait aimées. Dans son jardin, aujourd'hui transformé en vignoble, il avait gagné une centaine de mille francs. Il ne pouvait sentir la bonté des choses que là, dans l'ombre de ses murailles, sous le ciel de sa plaine, qui, pour lui, était le plus beau du monde. Intelligent, finaud, il avait retenu de ses études au collège beaucoup de français, un peu de grec et de latin. Quelquefois, par coquetterie, il s'amusait à réciter entre deux verres de muscat des morceaux d'auteurs classiques. Il vivait sans souci, heureux d'avoir à sa portée des enfants qui venaient dans sa solitude mettre l'agrément de leur prospérité. Il s'était marié deux fois. De ses quatre enfants, il n'avait plus que deux filles, Rose qui avait épousé M. Cassagnoles, Marguerite qui, au hameau de Rocas, avait épousé Bardol, vigneron âpre et farouche. S'il n'allait guère au hameau, c'est qu'il préférait, au-dessus de tout le monde, son aîné à sa cadette. D'abord, Rose avait pris en monsieur un fonctionnaire. Ensuite, étant du premier lit, elle lui rappelait sa jeunesse contente, cette maison bénie, où l'on mettait à l'amour autant de cœur qu'à l'ouvrage, sans trop penser à l'argent. En outre, Amélie, la fille de Rose, était une demoiselle instruite, éprise, comme lui jadis, de la poésie qui est dans les beaux livres. Il avait arrangé le cadre de sa vieillesse de façon si commode qu'il s'imaginait bien que, par respect et par gratitude, Rose n'y toucherait jamais. Aussi, quelle indignation l'avait agité le jour où Rose lui avait brusquement annoncé sa résolution d'aller habiter Paris. Pourquoi cette trahison envers leur terroir? Papette Rességuier, malgré l'insistance baroque de Rose à prétendre qu'Amélie, dans la capitale, achèverait son éducation, ne comprenait pas du tout. Mais une fois que Rose avait conçu un projet, il fallait coûte que coûte qu'elle le réalisât. Maintenant, il attendait ses enfants avec impatience. Près du puits, sous les branches d'un olivier qui laissait pleuvoir quelques rayons de soleil, il songeait. Frileux, se pelotonnant entre ses habits de velours 20 fois rapiécés, il était recouvert d'un pardessus rougeâtre, maculé de taches de vin, d'huile, de fruits, et qui, flottant sur ses épaules pointues, car jamais il n'enfilait ses bras dans les manches, tenait sous le menton au moyen de ficelles. Ses amples culottes tombaient en plis de tire-bouchons sur des sabots de frêne, dont il n'essuyait la boue que lorsque ses enfants lui reprochaient sa négligence. Mais il demeurait seul au milieu des champs et se moquait du monde, lequel, d'ailleurs, estimait sa fortune. De plus, étant, en vrai languedocien, troubadour à ses heures, il avait le goût du sans-gêne ainsi que du pittoresque. Vers 3 heures, la clochette tinta. Alerte, il gagna, le long du mur que trouait la fenêtre de la cuisine, la porte donnant sur le chemin bas de Rocas. Lentement, il ouvrit. Rose, son mari et sa fille entrèrent d'un air allègre, un peu affecté. Papette, de nouveau, ferma à clé, plus par habitude que par précaution. Comme Rose préférait causer dehors, parmi les lueurs embaumées du jardin, on serra les chaises de fer autour de la table de pierre, sur laquelle Papette avait préparé une bouteille de muscat d'Adissan et de gros verres très propres. Rose, sans ôter ses gants, fit le service. Papette, installée dans l'unique fauteuil, entre son gendre toujours modeste et sa petite fille un peu languissante, parla le premier du grand voyage à Paris. « Alors, vous partez demain ?»« Tout est prêt, » répondit Rose. « Nous n'avons plus qu'à boucler nos malles. Nous logerons d'abord à l'hôtel en attendant nos meubles. Par miracle, j'ai déniché un appartement dans le quartier du Panthéon. À vrai dire, grâce à une agence. » « Ah, mon Dieu, quelle aventure !» Papette mâchonna des mots de regret entre ses lèvres gercées qui s'enfonçaient dans sa grande bouche. Rose, par une sorte de défi, tenait très droit son buste. Elle était, malgré ses prétentions, une paysanne rougeaude, superbe de taille et d'encolure, mais bien vêtue, sachant, à la richesse de ses parures, à la politesse de ses manières, emprunter quelque élégance. Son gringalet de père s'étonnait souvent de l'avoir mise au monde. Mais elle ressemblait à sa mère, qui était vaillante à l'ouvrage, aussi robuste qu'un homme. « On dirait, ma fille, que tu n'es pas née dans ce jardin. Il te faut la ville, la capitale. Et toi, Cassagnole, que penses-tu de ce départ ridicule ?»« Il pense que j'ai raison, » répliqua Rose. « Il t'a trop gâtée, comme moi. » Cassagnole se mit à rire de sa longue figure rousse, cachant à demi sous son chapeau sa bouche aux dents intactes, sa moustache coupée nette au bord de la lèvre. Papette, en touchant le genou d'Amélie, l'interrogea. « Et toi, te marieras-tu à Paris avec un jeune homme que tu connaîtras à peine ? Auras-tu la force de renier nos vieilles relations, tes amitiés ? Tu me comprends ?»«
Je comprends, moi, tes allusions à Gustave, le fils des Mourez, » répliqua Rose. « Mais eux-mêmes, croient-ils beaucoup à ce mariage ? Ils ne m'en ont jamais soufflé mot. Nous avons eu tort de laisser Amélie fréquenter trop librement Gustave. Mon mari est trop faible. »
« Moi ?» protesta celui-ci. « On ne pouvait pas faire autrement. »«
C'est ton excuse. Quoi qu'il en soit, nous quittons Marraine. Cela dissipera tous les commérages. »
« Quant à moi, » soupira Papette, « je m'éteindrai ici tout seul. »
« Pardon, mon père, il y a ma sœur Marguerite à Rocasse. »
« Je ne la vois guère, tu le sais. À propos, je suppose bien que vous irez lui dire bonjour. »
Cassagnole consulta du regard sa femme, qui, faisant une moue de répugnance, finalement acquiesça.
« Nous irons donc à Rocasse, quoique ça ne soit pas très agréable. On dirait qu'on les dérange toujours, ces paysans. »
« Allons, trinquons à votre santé, mes enfants, et aussi à l'espérance que vous me reviendrez un jour. »«
Oui, papette, » répondit Amélie par compassion.
Les verres s'entrechoquèrent. Papette vida le sien d'un trait lent, indécis, afin qu'on ne s'aperçût point que des larmes germaient de ses yeux fripés. Mais les larmes arrivèrent en abondance et, brusquement, il s'en trouva inondé jusque dans son cou terreux. Rose, pour empêcher une scène de lamentation, aussi pénible qu'inutile, se leva. Sans proférer une parole, les Cassagnoles s'en allèrent vers la porte du chemin. Papette les suivait à distance, dans une sorte de cauchemar d'où il ne s'éveilla que lorsque sa petite fille tourna vers lui son clair visage. Il la pressa contre sa poitrine, la baisa sur les joues, sur le front, avec une fureur désordonnée. Il accueillit entre ses bras, dans les pans de son pardessus, sa fille énorme qui s'était inclinée. Ensuite, il se laissa embrasser par son gendre qui pleurait aussi.
« Tu viendras à Paris ?» lui dit sa fille.
« Qui sait ? Eh bien, ma foi, c'est probable. »
Quand ses enfants eurent franchi le seuil, il les salua d'une voix souriante.
« Adieu, ne m'oubliez pas !»
Pour le regarder une dernière fois, ils se détournèrent. Mais sans bruit, Papette avait disparu. Ainsi qu'il le lui avait promis, ils montèrent au hameau. Le chemin de sable et de gravier, entre des murs épais qui brèchent parfois l'inondation de l'Hérault, entre des talus plantés d'amandiers que le vent d'automne dépouillait de leurs dernières feuilles, zigzaguait comme un ruisseau. Le château de Rocasse, debout là-bas sur sa butte de granit, semblait, de ses hautes fenêtres rougeâtres et de ses tours blanchâtres à créneaux, épier les promeneurs de la plaine. Le chemin glisse sous le hameau, dans l'ombre d'une haie d'aubépine et de quelques maisons presque pourries de vétusté. Au sommet d'une côte ardente, ils virent, dans l'étincellement de la lumière, sur leur droite, la vaste grange où Marguerite et son homme, Bardol, menaient une vie patiente de labeurs et de privations. Le portail avait ses deux battants grands ouverts. Dans la cour, parmi de la paille, des poules picoraient, sous la surveillance d'un coq paré de pourpre et d'or. Dans les hangars, des charrues au soc d'acier se rangeaient devant des charrettes crotteuses et les pressoirs exhalaient l'odeur des vendanges récentes. Tout au fond, dans l'écurie, un âne se mit à braire. À trois pas du portail, dans la cuisine sombre, Marguerite, de noir vêtue, un foulard rouge autour de la tête, mettait à bouillir sur le trépied de fer un chaudron rempli de pommes de terre. Au bruit de ses visiteurs, elle se détourna sans hâte, montrant à la lueur du foyer sa haute taille sèche, son long visage osseux, couleur de vieil ivoire, où de beaux yeux noirs brillaient comme des perles. Rose, quoique avantagée par leur père, blâmait sa cadette d'avoir, par son état de travailleuse rustique, perpétué l'humilité de leur origine. Malgré tout, Marguerite ne lui en voulait pas de son dédain. D'abord, elle n'avait pas le temps de songer à autrui, et la religion lui défendait une haine qui aurait pu lui porter malheur. Ensuite, elle avait réellement quelque satisfaction de se dire devant le hameau la belle-sœur d'un fonctionnaire en retraite, la sœur d'une vraie dame de marraine, qui, pour rehausser la considération de leur famille, faisait tous les frais. Marguerite avança des chaises avec empressement, et, s'asseyant elle-même, le dos à la cheminée pour servir d'écran à l'ardeur des flammes, elle dit d'une voix engageante « Alors, vous voilà sur le point du départ ?»« Mais oui, » répondit Rose. « Et vous ne regrettez rien ?»« Que regretterions-nous ? » ?»« C'est vrai, vous n'avez pas de propriété à surveiller. » »« Mais Papette, il a beaucoup de chagrin, il est bien vieux. » »« Il vivra 100 ans. » Dans son désir de recevoir ses proches selon la bienséance, et aussi son embarras de ne trouver auprès d'eux aucun lien de familiarité, Marguerite s'agitait sur sa chaise. « Vous accepterez quelque chose ? » dit-elle. « Merci, » répondit Rose, « nous avons pris du muscat chez Papette. Amélie ne veut pas dire bonjour à ses cousins ? Ne les dérange pas, une autre fois. Dis-moi, si un malheur arrivait à Papette, tu m'en informerais tout de suite ?» Tu n'es pas venu exprès pour ça ? Oh non ! Sois tranquille, ce n'est pas moi qui profiterai lâchement de sa rancune contre toi. Je ne voudrais pas non plus le moindre nuage entre toi et moi. On ne s'est pas beaucoup fréquenté, on s'aime bien tout de même. Rose ne cherchait certes des flatteries que par intérêt. Pourtant, elles furent douces au cœur de Marguerite, qui d'émotion se mordit les lèvres. Au moment où ses proches prenaient congé, elle voulut manifester sa tendresse par l'offre d'un cadeau. « Attends, Amélie, je vais te donner quelque chose. »« Non, ma tante, ce n'est pas la peine. »« Garde ça pour ta maison, » s'écria Rose, « tu as bien assez d'enfants. » Marguerite, ayant ouvert son armoire qui dissimulait dans l'ombre sa carrure de forteresse, en retira soigneusement, de sous une pile de linge, un écrin très ancien à la couverture de peluche bleue. Sainte relique de famille, précieuse par sa rareté, elle présentait en un cadre d'or le portrait, colorié sur porcelaine, d'un garde française de 1789, un des aïeux de Rességuier. Rose, touchée par ce sacrifice généreux, protesta. « Ce portrait a été donné à toi. Garde-le. Papette te blâmerait. Est-ce que tu veux m'offenser par un refus ? Nous ne mettrons jamais ce bijou, nous autres. Amélie, prends-le. » Tu le porteras à ton corsage dans les salons de Paris. Qui sait si, à cause de moi, tu ne seras pas enviée ? Marguerite serra de force le bijou entre les doigts d'Amélie. Puis, glorieuse, elle accompagna ses proches jusqu'au portail. Elle les regarda s'éloigner vers la grande route. Ceux-ci marchaient côte à côte, d'un pas discret dans la poussière, et plus troublés peut-être qu'à leur sortie de chez Papette Rességuier. En somme, maugréa Rose, ma sœur fit aussi bêtement qu'une taupe dans son trou. Elle n'en est pas plus malheureuse, soupira M. Cassagnole. Oh, toi, tu es ennuyée d'aller à Paris. Cela n'est pas en question. M. Cassagnole se rapprocha galamment de sa femme, l'engagea par geste de sa canne à lui donner le bras, tandis que, sur la grande route, elle s'avançait, toujours raide, insensible à ses avances. Amélie souffrait chaque fois de ces altercations subites de sa mère et de son père, d'où celui-ci se retirait, plus conciliant et plus faible. Sur un coteau de Cantagril, Rose reconnut tout à coup, dans un champ d'olivier, le mari de Marguerite, roux, fluet, aussi minable qu'un cheminot, frappant de sa gaule les branches d'un arbre, pendant que ses enfants ramassaient les olives dans une corbeille. « Regardez-les ! » s'écria-t-elle. « On dirait des sauvages !» Elle éclata de son rire frais qui roulait dans sa gorge, la tête renversée comme pour boire du muscat à la régalade. Son mari, par complaisance, affecta de se moquer aussi. Mais Bardol et ses enfants avaient entendu là-haut, dans le champ d'olivier, le rire injurieux de la belle dame. Il se tenait immobile, étonné. M. Cassagnol, en un sentiment de honte, murmura « Ne nous ont-ils pas reconnus, eux aussi? Allons les embrasser, Rose. »
« Non, non, quelle idée! S'ils nous ont reconnus, tant pis. Je dirai à l'occasion qu'ils se sont trompés. »
Et avec un frisson de répugnance, Rose entraîna son mari et sa fille dans le soleil doré du soir sur la route que les platanes zébraient de leurs longues ombres.